il en est fini des joyeuses trilles. Place au cri stridulant des tractopelles, foreuses et tombereaux du BTP.
Et juste un petit mot, deux petits mots encore. Le premier pour expliquer ce qui est là, en fait, qui est une énorme mésange qui a été faite grâce au super travail du collectif Zadart. Alors, elle est en tenue d'avocat pour pouvoir représenter le vivant qui se défend à travers un procès. Une première partie, l'idée, c'est qu'il y ait tous les membres du tribunal qui puissent être là pour faire le procès des bétonneurs et de tous ceux qui détruisent le vivant. C'est un travail en cours.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
C'était le 26 avril, deux jours après le deuxième tour de la présidentielle. La journée de mobilisation, retour sur terre. Après une action matinale de blocage symbolique de la porte d'entrée du ministère de la Transition écologique par un mur de parpaing, histoire d'accueillir la prochaine ou le prochain ministre de l'écologie et lui rappeler l'ampleur de la tâche.
Ils vont construire un mur pour fermer symboliquement le ministère pour ce quinquennat. Ça fait déjà 5 ans que ce ministère ne fait rien pour nous, ne protège pas nos terres, ne protège pas le vivant, ne protège pas cette planète. Donc voilà, on le ferme symboliquement pour ce futur quinquennat.
Une journée complète d'action à l'appel d'une centaine de collectifs nationaux et locaux pour stopper les projets toxiques près de chez soi. Et moi, je vous emmène à Saclay, où les luttes locales d'Île-de-France étaient réunies pour une marche funèbre vers une scène de crime climatique.
J'ai vu l'appel d'Isabelle.
Il y a du monde qui arrive là, au rendez-vous. Sauvons les terres de Saclay.
C'est le point des écoles.
Et ouais. Le lycée Camille Claudel, il est là.
Voilà. Et plutôt que de mélanger les enfants normaux et les enfants de privilégiés, ils ont construit un établissement là-bas qui est absolument à deux pas de l'école polytechnique, juste entre Polytechnique et Thalès, EDF, etc. Donc ils vont rester, ces enfants, dans le même milieu. Ils vont franchir quelques dizaines de mètres dans leur vie et pour aller dans des lycées d'excellence, avec les meilleures classes internationales, les meilleurs profs peut-être, soi-disant, et puis l'école prestigieuse à côté, et puis leur futur emploi encore à deux pas. Là, le monde qui se construit ici, c'est un petit peu triste qu'on n'ait pas pu faire la jonction entre le vrai monde et le monde moderne.
Et toi, tu habites le quartier? Tu habites le quoi?
Oui, moi j'habite à côté. J'ai travaillé ici aussi pendant longtemps, donc j'ai vu ce, depuis 30 ans, je vois l'évolution de ce truc.
Du plateau de Saclay, quoi,
oui,
c'est ça?
Ouais. J'ai fait mes études ici. Donc après, j'ai vu le bétonnage intensif là, démarrer en 2007. Puis aussi la catastrophe annoncée des transports. Parce que toutes nos prévisions sont réalisées, en fait. C'est ça qui est triste. Hein. C'est que ce projet a avancé, initié par Christian Blanc et Sarkozy. Il a été figé dans la loi du Grand Paris. Il avance comme un canard sans tête. Une sorte de zombie administratif. Je pense qu'il n'y a plus personne qui y croit vraiment. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'y croire, je pense. Et puis quelques privilégiés à qui on offre des nouveaux labos, des beaux bâtiments. Ça dépend des goûts. Hein. C'est des grands architectes extrêmement célèbres qu'on construit sur le plateau. C'est le musée à ciel ouvert du greenwashing architectural aussi, avec tous les bâtiments, vérifier toutes les meilleures normes, HQE, tout ce que vous voulez, énergie positive, etc., etc. Donc ça sera intéressant de juger sur pièce. Ça semble peu crédible, en fait, toutes les promesses qui ont été annoncées en termes d'éco-quartiers, de choses comme ça. Ils viennent encore de recevoir un nouveau budget pour urbaniser un nouveau morceau du coteau, là, le domaine de Corbeville. C'est censé être le plus bel éco-quartier du monde, avec 1000 logements, mais tout en préservant le parc du château, les arbres et tout. Voilà. Donc on nous a annoncé des trucs merveilleux. C'est malheureusement peu crédible, à mon avis. C'est très triste, en fait, de voir qu'il y a des gens qui s'illusionnent là-dedans. Je suis un élément du système aussi, puisque vous voyez, je fais partie de ce ghetto scientifique qui est la vallée de l'Yvette.
Tu es chercheur en quoi, toi?
Moi, je fais des mathématiques, mais je m'intéresse à toutes ces questions, justement, de modélisation de systèmes vivants et de, comment dire, un système complexe, quoi, et qui est très difficile à piloter. Il y a l'illusion du pilotage, voilà, c'est ça, l'illusion un peu cybernétique. On se dit qu'en changeant quelques paramètres, on va pouvoir vraiment orienter un système et aboutir à un objectif. Alors, c'est peut-être vrai au premier ordre, mais il y a très souvent des externalités négatives qui apparaissent. Totalement imprévisible. C'est des trucs qu'on découvre sur le terrain, quoi, et on ne peut pas remplacer l'expérience du terrain. Voilà.
Nous sommes sur le bord est de ce plateau, sur lequel, vous le savez, Nicolas Sarkozy, il y a presque 20 ans maintenant, a rêvé de construire une Silicon Valley à la française. Ce plateau fait 20 km de long sur 5 km de large. Il était encore, il y a moins de 10 ans, essentiellement agricole. C'est un plateau qui se situe en grande couronne parisienne et donc c'est une zone qui est encore relativement peu dense, qui fait partie de la ceinture verte de Paris, des terres exceptionnelles. Voilà, donc ça, c'est un véritable crime par rapport à l'avenir de nos enfants. Et sur le plateau de Saclay, on a déjà détruit comme ça 400 hectares pour la création de trois ZAC, la ZAC de Polytechnique qu'on va traverser, la ZAC de Corbeville qui vient d'être promise à l'urbanisation par la dernière décision du Conseil d'État, donc le dernier recours associatif pour protéger ces 80 hectares de terres vient de tomber et les travaux vont pouvoir commencer. Et enfin, la ZAC de Moulon, tout à fait à l'ouest de cette franchise.
Alors là, il y a les engins de chantier énormes, les caterpillars, il y a une grue, il y a des silos, il y a des bétonnières et il y a le bruit des palissades, les palissades en métal, là, ça sonne, hein, les palissades.
Ouais, c'est bien, ouais.
Alors, Sabrina, on s'était croisés hein, sur la ZAD de Saclay, là, il y a ouais. quelques temps. Vous y êtes toujours ?
On y est toujours, ouais. On est installé un peu différemment pour faire face à l'hiver, mais oui, on est toujours là.
Et là, aujourd'hui, ici, c'était un peu la mobilisation pour toute l'Île-de-France, hein, de toutes les luttes locales. Et l'idée, c'est de venir devant le chantier du tunnelier, un chantier gigantesque, pharaonique, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bah, l'idée, c'est de faire observer toutes les scènes de crime sur le plateau de Saclay. Et notamment le chantier du tunnelier qui creuse un tunnel de 6 km entre les communes de Palaiseau et Massy.
Et là, c'est devant nous.
La terre,
c'est, ça,
c'est devant nous. Bah là, la terre que tu vois là, c'est la terre qui vient d'être creusée hein, par le tunnelier, quoi, qui est donc entre 15 et 20 mètres selon les endroits. Tu vois, il y a un an et demi, c'était des champs, ça. Un spectacle de désolation un peu quand même. Hein. C'est des tas de terre, de gravats, de béton, des grilles, du métal partout. Là, cette marche aujourd'hui funèbre, elle a aussi cet objectif de peu d'enterrer le vivant et nous avec, hein, parce que je veux dire, on veut sauver la planète, mais en réalité, c'est une même mauvaise manière de poser les choses. On ne sauve pas la planète, on sauve l'humanité. On est là, on lâche rien.
Ouais, sauvons les terres de Saclay. Et les drapeaux, Extinction Rébellion, Confédération Paysanne.
Là, on va aller jusqu'à Corbeville. Donc, c'est le lieu où on vient de. Il y a un recours juridique qui vient d'être perdu. Donc, c'est 80 hectares de terre, parmi des terres super bonnes parce qu'elles sont au centre du plateau, qui ont été expropriées pour faire un nouveau quartier d'habitation, un nouvel hôpital qui va permettre de justifier la fermeture de trois hôpitaux de proximité. Et puis. Et puis la ligne 18, hein, tu verras, il y a toutes les piles qui sont déjà en place.
Antoine Chao,
c'est
bientôt demain.
Voilà.
Sur France Inter.
Moi, j'ai pas fait
maraîcher. Toi, t'es maraîcher, d'accord.
Ouais, je suis porte-parole de la conf Île-de-France.
Gaspard, donc.
C'était croisé à l'hôtel de ville.
D'accord, la marche des terres. Tu me racontes un peu la mobilisation ici, donc des paysans, quoi, c'est ça ? Vous êtes très mobilisés ?
Je veux, mais ça va être assez pathétique ce que je vais te raconter. Ouais. Il vaut mieux en rigoler, quoi.
Oui, d'accord. Bon, écoute.
Alors, tu dis les paysans, écoute, je suis flatté d'être multiple.
C'est la Confédération paysanne, hein, tu
c'est
quand
la
même
Confédération
drapeau,
paysanne.
Quoi.
De fait, l'agriculture paysanne a un peu disparu en Île-de-France, il faut bien le dire. On est face à des agro-industriels, voire à des prête-noms et à des sociétés, puisque la plupart des travaux sont en fait faits par la sous-traitance de machinisme agricole. Sur la plupart des fermes, les fermes font 200 hectares, 300 hectares en grande culture. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui mettent plus les mains dans la terre. On est sur des terres qui sont très spécialisées sur les grandes cultures, qui n'ont pas forcément une vocation alimentaire humaine. bien qu'il y ait un bassin de population de 10 millions d'habitants sur la région Île-de-France, et qu'on pourrait tout à fait être autonome au niveau alimentaire, puisque c'est pour ça que Paris est à Paris, c'est que c'était des bonnes terres et qu'on faisait manger tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, non content de faire à manger, d'abord pour des animaux ou pour de l'export, pour exporter à bas prix dans le tiers-monde, on a commencé à faire de l'alimentation animale délocalisée en Bretagne. En fait, on nourrit les algues vertes, voilà, en Île-de-France. La finalité, c'est ça. Et donc, maintenant, il y a d'autres procédés qui sont encore plus cocasses et ingénieux. C'est de faire de la méthanisation, par exemple, pour faire du gaz. Donc un grand renfort d'énergie fossile, bien que ce soit du gaz vert, puisqu'il faut construire des unités de méthanisation avec moult béton qui est lui-même extrêmement énergivore et émetteur de gaz à effet de serre. Donc en dévoyant le caractère alimentaire des terres agricoles, puisque ça va aller dans le méthaniseur, en contournant les législations qui interdisent de mettre les cultures principales, mais bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail de la méthanisation. Et puis bah, là, ce qui se passe sur Saclay, c'est plus vieux comme procédé. Mais c'est juste de l'artificialisation et de l'urbanisation. C'est du parasitisme. C'est-à-dire qu'il y avait des terres fertiles, donc les gens se sont installés là. Mais les gens se sont tellement installés qu'à la fin, il n'y a plus de terres fertiles et que du coup, bah, ça va crever de faim. Donc bon, c'est absolument désastreux. Ce qui est aussi désastreux, c'est qu'on soit une poignée ce matin à se retrouver là, alors qu'il y a un bassin de 10 millions de personnes qui devraient s'arc-bouter becs et ongles pour empêcher les profits d'une toute petite minorité, parce qu'il s'agit d'une toute petite minorité. On retrouve les mêmes têtes de gondole d'entrepreneurs multinationaux. C'est-à-dire que quand le bâtiment va, tout va. Mais là, qui va se refaire ? Bah, c'est les grands du béton, c'est les grands des infrastructures. Bon, certainement, ça permet de faire survivre quelques ouvriers, voire même pas mal. Mais dans quelles conditions Voilà, je sais pas. J'espère que je vous ai fait bien rire, quoi.
Ah bah oui. Quand même. Et toi, comment tu t'en sors là-dedans tu...
Mal. Moi, je suis dans une petite niche qui s'est développée il y a une vingtaine d'années, quoi, qui a peut-être passé son apogée. C'est-à-dire, on s'est installé, on a toute une génération à s'être installé dans les années 2000-2010. Pour la plupart, en maraîchage. À travers les AMAP, où il y a eu un élan citoyen d'agriculture citoyenne. Le maraîchage, c'était la voie d'entrée idéale pour les néos, parce que ça nécessite peu de surface, et que le nerf de la guerre, c'est l'accès au foncier. Le fait de pouvoir s'installer sur une petite surface était accessible, et pour des gens qui n'avaient pas la culture paysanne et agricole, ça permettait de monter des petites infrastructures qui, avec le débouché du réseau des AMAP, permettait de faire des systèmes économiquement viables, avec un engagement citoyen et puis avec l'aspect aussi un peu sexy du maraîchage, qui est, c'est vrai, assez passionnant. Parce que bon, mais maintenant, là, on vit les 20 ans de ces installations, et que là, il y a un certain tarissement de la demande pour les AMAP et pour la vente directe et pour l'agriculture biologique, qui est assez difficilement définissable, ou en tout cas objectivable, dont on ne comprend pas tous les ressorts. En tout cas, on en voit plusieurs. Il y a eu le Covid, les gens ont envie de manger des pizzas, maintenant ils n'ont plus envie de faire du pain et de la soupe, parce qu'ils ont fait ça pendant 2 ans, donc ça c'était l'hypothèse de reporter, c'est qu'ils avaient envie de manger des pizzas et de la vente à emporter. De fait, il y a des parts de marché, comme on dit, qui ont été récupérées par toutes les start-up qui ont récupéré en fait le travail de l'agriculture biologique et du réseau des AMAP et des AMAP à travers des start-up qui font plus de la com que de l'agriculture, qui ne sont pas en agriculture paysanne, puisque dans la majorité des cas, ce sont des structures sociétaires qui emploient des salariés, donc ça n'est pas le statut agricole, qui vendent sur Internet et qui concurrencent forcément, parce que plus facile, il suffit de cliquer et puis on va chercher un panier quand on a envie et puis on choisit ce qu'il y a dedans et tout ça. Il n'y a pas le côté engagement citoyen d'un panier AMAP qui est un peu contraignant.
Donc la MAP a été ubérisée, quoi.
Absolument. Une des premières structures qui fonctionne comme ça, c'est la Ruche qui dit oui, qui a été fondée ni plus ni moins par Mounir Majoubi, qui était conseiller au numérique du président. Et bon, et qui était présenté vraiment comme... la révolution agroécologique, quoi, et citoyenne. Et ensuite, beaucoup d'autres structures ont suivi, macagette.com, Le Village Potager, Tomato & Co. Bon, il y a pas mal de structures comme ça. En fait, avant même de penser à l'exercice qu'on veut mener, il faut trouver un avocat fiscaliste, un communicant, un banquier, évidemment, et des financeurs. Et puis après, on se pose et on se demande ce qu'on va faire. Et on voit qu'en fait, toutes les entreprises, maintenant, sont complètement interchangeables. Quand on a un Xavier Niel qui faisait de la téléphonie et qui va faire de la viande de synthèse aujourd'hui, voilà, ou un Bolloré qui faisait du papier, qui fait du cacao et qui rachète la presse, ça n'a plus ni queue ni tête. Il n'y a plus de corps de métier, à proprement parler. Il y a une économie qui est complètement dérégulée et financiarisée, quoi.
Die in. Tout le monde s'allonge par terre. C'est la scène de crime à Saclay.
Les saccageurs, les saccageuses sont venus. Traquer les bêtes, éventrer la terre. Et ils ont fait des semailles immondes d'agonie et de deuil.
C'est bientôt demain, scène de crime climatique à Saclay. Et si vous voulez rejoindre une mobilisation près de chez vous, vous trouverez toutes les infos sur la page de l'émission C'est bientôt demain sur franceinter.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel instantané sonore, à l'antenne ou en podcast.